Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin, Pierre Dorian.
Avec vous bien sûr au 32-16 jusqu'à 18h avant de retrouver le foot bien sûr avec toute l'actualité Mercato et bien sûr les débats Paris Saint-Germain. Vous avez entendu Christophe Galtier tout à l'heure, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous à 18h pour toute l'actu foot. Nous on va parler vélo avec Jérôme Coppel qui rejoint l'Intégral Sport.
Salut Jérôme.
Salut Jérôme. Salut Pierre, salut à tous.
Après un bel été, un beau Tour de France, hein, vous êtes régalé, hein, c'est vrai.
Ouais, c'était génial.
Vous nous avez régalé, oui.
Ouais, c'est les coureurs hein, qui font la course, nous on fait que commenter, mais c'est vrai que c'était incroyable.
On sort
vraiment
comment
un Tour de France génial.
On sort comment de 3 semaines, ben, presque un mois, parce qu'il y a l'avant et l'après à cohabiter avec Christophe Cessieux, Cyril
Guimard. Ouais, c'est cramé.
Ils sont
avec Christophe Cessieux, 2 ou 3 kilos de plus, hein, vous voilà. Savez, les restaurants, le petit coup à boire, il aime bien ça, hein, le chef.
Alors, au programme aujourd'hui, on va parler VTT, même si la Vuelta démarre, bien sûr, mais le VTT, c'est en direct avec les championnats d'Europe, la course masculine qui vient de démarrer. Je vous donnerai la suite du programme après parce qu'on va tout de suite faire le point sur le départ. C'est important le départ dans une course de VTT avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Et pour l'instant, c'est plutôt groupé. Les VTTistes sont partis depuis 6 minutes tout rond. Il y aura 34 km au programme, presque 35. Une boucle d'un peu moins d'un kilomètre au départ et puis ensuite 8 boucles de 4 km 200 le tout dans le parc olympique de Munich. Alors qu'on voit d'ailleurs que ça se corse un petit peu. Un parcours selon les coureurs, pas hyper sélectif, pas hyper naturel non plus, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, avec un grand favori, c'est Tom Pidcock, 23 ans, britannique. Oui, vous en avez entendu parler cet été, sûrement, il a remporté l'étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, mais il est aussi et surtout champion olympique en titre de VTT, il est également champion du monde de cyclocross, bref, il est tout terrain et c'est très utile quand vous faites du VTT. On pourra également suivre le Suisse Filippo Colombo, pas mal de favoris, en tout cas certains ont fait l'impasse aussi parce qu'il y aura des championnats du monde au jet la semaine prochaine, ce sera en France. Et puis, grosse surprise, un des favoris suisses, Mathias Flückiger, a lui été testé, contrôlé positif à une substance anabolisante considérée comme dopante. Donc, il n'a pas pris le départ aujourd'hui. Un mot des Français, messieurs, 4 tricolores, Joshua Dubot, Thomas Griot, Stéphane Tampier et Victor Koretsky. La meilleure chance française est probablement Victor Koretsky, 5e des Jeux de Tokyo l'été dernier, 3e des championnats du monde l'an dernier également, et 2e du classement général de la Coupe du Monde. Donc il a de bonnes références. On va juste voir comment il réagit parce qu'il s'est engagé sur une saison sur route avec l'équipe BNB. C'est une première pour lui. Donc là, il revient au VTT, mais c'est une bonne cartouche alors que ça s'étire un petit peu dans ce qu'on appelait un peloton qui n'en est plus vraiment un pour l'instant.
Alors, on va faire le point sur les positions dans un instant. D'abord, le temps de vous donner le programme. On va parler du départ de la Vuelta et surtout du retour aux affaires de Julien Alaphilippe dans quelques minutes. Ça doit être sympa l'ambiance hein, chez Quick-Step entre Patrick Lefrévert et Julien Alaphilippe, Jérôme.
Ouais, c'est vrai que les dernières déclarations de Lefebvre ont été un peu surprenantes. On a l'habitude d'entendre des managers qui couvent un peu leurs coureurs. C'est pas le cas de Lefebvre. Lui, il aime bien leur rentrer un peu dedans, les secouer un petit peu. Et c'est vrai, quoi, les dernières déclarations où il a bien piqué Julien Alaphilippe, certainement pas fait plaisir aux Français. Maintenant, d'après son interview, ça a pas l'air de trop le toucher. On verra ça sur la route. Hein. On rappelle qu'il a pas beaucoup couru depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège. On va voir ce que ça donne sur les routes de la Vuelta.
Et puis nous serons avec Pauline Ferrand-Prévot pour la course féminine, toujours des championnats d'Europe de VTT. Enfin, on dira un mot de boxe avec l'un des événements du week-end, c'est le Joshua Usyk numéro 2. Et puis on terminera par le Kikadi pour gagner votre maillot de l'équipe de France de basket ainsi que des places de match pour France-République tchèque. Vous envoyez maintenant Kikadi par SMS au 7-32-16. Et donc Jérôme Coppel va faire partie de la communauté internationale du Kikadi. Tu vas recevoir ta carte de membre. Dans les jours à venir, voilà. Jérôme. Hein.
Ce sera fait à 18h.
Génial. Trop hâte.
Alors, déjà, c'est un coquin.
Tu la perds pas, hein, parce que c'est un vrai sésame.
Il y a une charade aujourd'hui, et j'ai cru comprendre que Jérôme écoutait le Moscato Show tous les jours. Puisque
c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Quand il s'est connecté, puisque Jérôme, tu es en duplex, il a demandé à notre producteur Frédéric Pouillet, qui est l'auteur des charades, la réponse de la charade.
Déjà, tu triches.
Voilà. Donc, d'accord. On est sur.
Qui a balancé? On peut rien faire.
J'entends tout, Jérôme. J'ai les oreilles partout, tu sais. Sache-le maintenant.
Allez, voilà le programme avant d'accueillir Pauline Ferrand-Prévot. On va s'arrêter sur le début de course donc de ces championnats d'Europe de VTT, la course masculine en cours. Valentin Jamin, est-ce que ça commence un peu à se décanter?
Alors ça se décante un petit peu, comme je vous le disais, en tout cas ça s'est étiré. Il y a un premier groupe là qui est en train de sortir au gré des premières difficultés. On est toujours dans ce premier des 8 tours dont je vous parlais, et le Français Victor Koretsky a été pointé à 4 secondes de la tête au début. Donc pour l'instant, lui est dans le bon wagon, tout comme le Suisse Filippo Colombo, qui est un des plus grandes chances maintenant pour la Suisse. Il a été médaillé de bronze lors des championnats d'Europe l'an dernier. Il y a 3 Suisses, il y a 2 Allemands et il y a notamment Victor Koretsky. Voilà, les positions ne sont pas figées, mais le peloton en tout cas qui s'étire.
Alors il y a une première chose que tu vas nous expliquer, Jérôme, sur cette course là, sur ce championnat d'Europe. On sait qu'en VTT, la bagarre pour les médailles, ça se fait un peu plus tard hein, dans la course. Mais malgré tout, au départ, il y a déjà les 3/4 des coureurs qui sont battus. Puisque tu pars, il y a pas la place pour faire un peloton là. Tu pars quasiment en file indienne. Comment se font les positions au départ? On met les meilleurs mondiaux devant ou c'est quoi le truc?
Exactement, en file les positions. Donc il y a une première avec les meilleurs mondiaux en pro classement mondial. En voilà le
mieux classé. Tu as recommencé ta phrase à zéro parce qu'il y a un énorme bug technique. On n'a rien compris. C'est absolument pas de ta faute, mais il faut que tu recommences à zéro.
Non, donc je disais là, il y a une première ligne de départ qui est faite par rapport au classement mondial. Donc en fait, on prend le meilleur coureur au départ, le mieux classé au classement UCI part à la première position et on alterne comme ça, voilà, jusqu'au moins bien classé. Donc un coureur grand enfant, Jean-Paul Lui, Pic de TT, qui a gagné l'étape à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France. Il a participé à seulement 2 manches de Coupe du Monde qu'il a gagné, mais il est mal classé au classement général de la Coupe du Monde. Donc, il est parti seulement en 3e ou 4e ligne. Et on sait que le pas très important, hein, tu l'as écouté. Donc, part tout de suite très vite. Faut remonter le plus rapidement possible dans le groupe de tête, ce qu'a très bien fait Koretsky. Mais c'est vrai que quand on est coincé dans les embouteillages, hein, il y a des montées très raides, des virages assez serrés. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Certains coureurs doivent mettre pied à terre. Et quand on part en 2e ou 3e rideau, faut déjà faire un premier effort pour rejoindre le groupe de tête. Et des fois, c'est des forces qui nous manquent dans le final.
Alors, on va régler ton problème technique, même si, parfois on te perd et qu'on t'a retrouvé depuis, hein. On a compris, malgré tout, la réponse. Mais, Jérôme, il y a eu des petites coupures, hein. Tu n'y es pour rien. Tu t'en es peut-être même pas rendu compte. Juste un point un peu plus précis, Valentin, donc avec Victor Koretsky qui est plutôt bien placé. Hein,
dans oui, ce alors une info intéressante, messieurs, c'est que Tom Pidcock, qu'on annonçait comme le grand favori, est dans un groupe un petit peu derrière. Il a été pointé à 15-16 secondes de la tête de course. Alors, il n'est pas évidemment lâché irrémédiablement, mais c'est intéressant. Vous parliez de l'importance du départ, de voir que Tom Pidcock n'avait pas forcément pris le bon wagon au gré des premières difficultés. Donc, on va voir si le Britannique arrive à se replacer, mais il ne faut pas qu'il lâche trop de temps. Donc c'est la première grosse information entre guillemets de ce début de course. Tom Pidcock après 5 km et pour l'instant dans un wagon un petit peu plus en retrait Victor Koretsky, donc le Français médaillé de bronze au championnat du monde l'an dernier, est dans le tout premier groupe, dans les toutes premières positions. Il est 4e, en tout cas il a été pointé 4e après 11 minutes de course. 2 Allemands, Maximilian Brandl et Lucas Schwarzbauer, mènent la course devant le Suisse Filippo Colombo et donc Victor Koretsky, qui pour l'instant, donc je vous le disais, fait une saison sur route avec BNB et pour l'instant s'adapte très très bien, même s'il les connaît très bien également, aux exigences de ce parcours de VTT ici à Munich. Mais on va zioter ce que fait Tom Pidcock pour éventuellement rejoindre les hommes de tête.
Et bien sûr, tu es là pour nous faire vivre ces championnats d'Europe de VTT. Alors en précisant, et c'est important, qu'il y a les championnats du monde la semaine prochaine.
Exactement.
Que donc tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et que d'ailleurs tous les meilleurs ne sont pas présents et ça peut avoir une influence sur le résultat, bien sûr. Alors, tu nous sonnes bien sûr s'il se passe quelque chose de significatif,
bien sûr. Hein,
parce que ça peut aller très vite en VTT. Mais pour l'heure, on va parler de la Vuelta avec Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Pierrot, bonjour.
Salut
à tous.
Pierre-Yves. Pierre-Yves, tu sais, Jérôme, tu sais on a quand même une Dream Team assez impressionnante. Donc là, toi, tu passes de la route au VTT. Tout à l'heure, j'ai appelé Pierre-Yves pour lui demander bon, des infos
pour travailler.
Philippe. Et puis, je lui dis, Pierre, on a le VTT, tu peux m'aider un peu? Non. VTT, Pierre-Yves.
C'est moche, ça, Pierre-Yves.
C'est pas
ça,
une tasse de thé. Hein.
C'est pas du tout ça, mais c'est que je voulais pas que Jérôme ait rien à faire. Il faut qu'il brille un petit peu, quoi. Déjà, quand t'es
le vrai vélo, c'est sur route, Pierre.
T'es vraiment un pote, Pierre.
Avant de parler de la Volta, Jérôme, tu en VTT, tu es fort ou tu touches ta bille ou pas du tout
quand... je tombe pas, ça suffit comme réponse. Je tiens sur mon vélo.
Tu aimes le VTT ou c'est pas ton truc?
Oui, non, j'aime beaucoup le VTT. J'en faisais pas mal en préparation à mes saisons sur route, mais alors après pas du niveau où on est en train de regarder là. C'est vraiment une discipline à part entière. Même si voilà certains coureurs doublent un petit peu, c'est vraiment des exceptions et il y a principalement que des spécialistes du VTT comme avec Julien Absalon.
Faut rappeler quand même que Jérôme est plutôt un skieur, hein, c'est pas un vrai
skieur. Oui, c'est un skieur. Ah, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il aime le VTT. Hein. Alors nous les vrais cyclistes, Pierre-Yves, on s'intéresse au Grand Tour et au classique.
Oui,
voilà. Donc la Vuelta démarre des Pays-Bas aujourd'hui avec un chrono de 23 km et donc c'est un peu le retour aux affaires de Julien Alaphilippe et tu as réalisé une interview de Julien cette semaine dans un contexte un peu spécial hein, puisque Patrick Lefebvre lui a mis une sorte de coup de pression en disant en gros mon coco je te paye pas pour que tu fasses une course dans l'année les championnats du monde. Ça c'est ce qu'on a ressenti nous en externe. Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus lui Julien?
C'est vrai que surtout il est dans un contexte un peu particulier hein, puisqu'il avait évité la malédiction du champion du monde qui est si souvent évoqué dans le cyclisme pendant son premier règne, mais la seconde année là elle lui porte un peu la poisse. Il y a eu sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège, son absence au Tour, le Covid qui lui s'est présenté alors qu'il retrouvait la forme il y a 4 semaines et une victoire d'étape au Tour de Wallonie, la deuxième hein, seulement de l'année. Et puis le champion du monde, il prend donc part à la Vuelta avec moins de 30 jours dans les jambes et il se sait attendu. Écoutez-le.
On a beaucoup d'attentes sur moi. C'est pas toujours évident de pas être à 100%, ça c'est sûr. Encore plus avec ce maillot. Moi, de mon côté, je fais le maximum. Je sais que je suis professionnel, que j'ai encore beaucoup de grinta et d'envie pour briller d'ici la fin de saison. Et ça va commencer ici sur la Volta.
Voilà, tu disais attendu notamment par son manager général Patrick Lefebvre, qui donc a un peu secoué son coureur en début de semaine dans une interview à nos confrères belges, en disant précisément « Il a couru le Tour 2021 en fonction des championnats du monde, je ne le paie pas pour ça, j'attends donc quelque chose de lui sur la Vuelta ». Alors je lui ai demandé de réagir hier à ces petites piques du patron et Julien il a parce qu'il est malin, il a botté en touche laissant entendre qu'il n'était pas au courant. Tiens, qu'est-ce que c'est surprenant. On peut quand même imaginer qu'entre sa non-sélection au Tour mal digérée et puis ses déclarations là le Français va montrer de quel bois il se chauffe.
Ouais, Jérôme, c'est impossible qu'il n'ait pas été au courant des propos de Patrick Lefebvre, on est bien d'accord.
Bien sûr, c'est impossible. Mais comme l'a dit Pierre-Yves, il est très malin. Il a pas envie de s'embêter avec ça au départ de la Vuelta. Il veut pas rentrer dans la polémique avec son manager. De toute façon, un coureur gagne rarement contre un manager. Faut le savoir. Donc voilà, Julien, il botte un petit peu en touche et voilà, il va montrer sur la route qu'il est pas là pour faire de la figuration et qu'il est pas là seulement pour préparer le championnat du monde où il va viser un troisième titre consécutif.
Alors on est habitué, c'est une personnalité, Lefebvre. Mais à quoi il joue en fait? Moi, j'ai pas saisi encore le but de ses déclarations. De la façon dont il traite un des meilleurs coureurs du monde. Je veux dire, tout le monde veut avoir son équipe Julien Alaphilippe. Il faut quand même revenir les pieds sur terre. Quoi. À quoi il joue Lefebvre? Il se fait plaisir? C'est parce qu'il est comme ça? Ou il a quelque chose derrière la tête? Il veut quoi en fait?
Alors ça c'est une bonne question, mais il est comme ça. Il l'a déjà fait avec Mark Cavendish, il l'a fait avec Evenepoel notamment. Alors des fois c'est un peu moins frontal, mais il aime bien piquer un peu les coureurs comme ça. Il veut montrer qu'il est le patron. Vous savez, quand Julien Alaphilippe est double champion du monde, c'est super pour Patrick Lefebvre. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est les courses sous son équipe. C'est pas vraiment avec la sélection nationale. Hein. Plusieurs fois, il l'a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le maillot arrive dans mon équipe. Il s'en fout de la nationalité. Après, hein. Ouais, bien sûr, ça fait de la grosse pub, mais lui, il sait qu'il paye des coureurs très chers, il veut qu'il marche quand il court avec le maillot Quick-Step. Maintenant, est-ce que ça marche? On verra, ça va marcher sur Julien Alaphilippe. Pour l'instant, ça lui donne raison, il tranche souvent dans le vif, il a pas pris Julien au Tour de France. On a dit, la sélection Quick-Step, c'est bizarre ce que fait Patrick Lefebvre. Boum, les deux premières étapes du Tour, 2 victoires pour son équipe. Donc voilà, il tranche dans le vif, souvent il a raison, on va voir là s'il est dans le vrai ou pas.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'après toi, Pierre-Yves, sur la Vuelta pour Julien?
Moi, je pense que on va le voir dès les premiers jours. Alors, pas là du côté des Pays-Bas, puisqu'on rappelle que ça part d'Utrecht, mais derrière, ça file vers le Pays Basque, qui sera d'ailleurs le terrain de jeu des 3 premières étapes l'année prochaine du Tour de France. Et Julien Alaphilippe, il a l'habitude de briller sur le Tour du Pays Basque. Ce sera le même terrain. C'est des montagnes qui lui correspondent très bien. C'est pas trop haut. C'est des bosses où je pense il devrait briller. Donc, à mon avis, un peu comme sur le Tour de France, la Quick Step, on va l'avoir très rapidement. Là, en revanche, il va souffrir, il en a rigolé hier sur ce contre-la-montre par équipe, parce qu'il est dans la roue de Remco et Evenepoel. Il est juste derrière lui et il a dit priez pour moi. Parce qu'il faut suivre.
Rapidement, le favori ou les favoris de la Vuelta, Pierre-Yves ?
Ah bah écoute, il y a évidemment Roglic, on peut compter Carapaz et puis pourquoi pas Evenepoel, on va voir. Mais au niveau des bookmakers, il est deuxième, Remco et Evenepoel. Mais comme il disait hier, on a l'habitude de se tromper du côté des bookmakers.
Et pour Julien, après un grand tour comme ça, éprouvant, 15 jours après les championnats du monde, il sera en forme, il sera épuisé. C'est parfait.
Bah, je pense.
Ils ont fait 15 jours derrière le tour et la Vuelta, et c'est bon.
Ouais, bah c'est pour lui. De toute façon, il a pas le choix. Hein. Il a fait 7 jours de course depuis Liège-Bastogne-Liège où il a chuté le 24 avril. Donc, il est obligé de courir cette Vuelta. Elle tombe pile poil pour lui. Il va faire 3 semaines de course. Après, il va récupérer un petit peu, prendre l'avion direction l'Australie. Donc, il a pas le choix pour défendre son titre mondial. Il fallait qu'il passe par cette Vuelta. Je pense que la décision de Lefebvre de pas le mettre au Tour, c'était une bonne chose pour sa fin de saison. Il était pas prêt. On a vu que le Tour a roulé très très vite avec la préparation qu'il avait. C'était impossible qu'il joue devant au Tour. Là, il a eu le temps de faire des stages en altitude, il va être bien sur la Vuelta. Bien sûr, les premiers jours, ça va être un peu difficile, il faut qu'il retrouve le rythme, mais un grand tour, ça dure 3 semaines, donc à partir de mi-Vuelta, il devrait commencer à être vraiment bien et il aura la fraîcheur certainement au championnat du monde que d'autres n'auront pas, et comme un certain Wout van Aert par exemple.
Alors, la Vuelta pendant 3 semaines et donc les championnats du monde cette année en Australie, vous l'avez compris, Julien Alaphilippe, que ça plaise ou non à Patrick Lefebvre, on sera l'un des favoris d'ailleurs. Merci beaucoup Pierre-Yves.
Merci messieurs.
On va refaire le point sur la course, le championnat d'Europe VTT, la course masculine avec Valentin Jamin.
Et le Français Victor Koretsky, toujours très bien placé après 8 kilomètres. Il est dans le wagon de tête. Victor Koretsky accompagné du Suisse Filippo Colombo, un autre Suisse Thomas Litscher et un Allemand Lucas Schwarzbauer. Il y a un autre Allemand Maximilian Brandl qui n'est pas loin. Et donc Tom Pidcock dont on parlait tout à l'heure, eh bien, a toujours 16 secondes de retard sur la tête, même si là ça souffle un petit peu puisqu'on vient de terminer un tour. Donc on est sur du replat, on passe sur la ligne d'arrivée, mais il n'est pas dans le wagon devant. Tom Pidcock, un des principaux prétendants à la victoire. Donc, 9 kilomètres parcourus à un Français, Victor Koretsky, toujours en lice pour la médaille.
Et puis, on suit aussi les tableaux de simples individuels, donc masculin et féminin, au tournoi de tennis de table, Morgane Maury.
C'est fini pour Alexis Lebrun, 18 ans, battu en 8e de finale par le 19e joueur mondial, Christian Carlsson. 4 manches à 2, une seule Française encore en lice, Diana Nguyen. Tout à l'heure, à 19h10, en quart de finale du tableau féminin.
Et donc, le VTT, on va passer à la course féminine avec l'un des plus grands palmarès de l'histoire du vélo français. C'est Pauline Ferrand-Prévot qui est notre invitée dans l'Intégral Sport. Salut Pauline.
Bonjour.
Alors on est avec Jérôme Coppel. Alors on suit la course masculine. Est-ce que tu y jettes un œil, Pauline?
J'ai jeté un œil et là j'avoue que j'ai arrêté pour vous parler. D'accord. Donc je reprendrai après.
Donc je vais pas te demander ton avis sur les chances de Pidcock ou de Victor Koretsky. On va parler de la course féminine. C'est un peu spécial, hein. C'est championnat d'Europe puisqu'ils sont placés juste avant les championnats du monde en France la semaine prochaine. Du coup, pour toi et pour l'équipe de France en général, c'est quoi le but de ces Europes? C'est préparer les mondiaux ou c'est une course à part entière?
Non, clairement, vu le début de saison que j'ai fait, c'est vrai que pour moi, ça reste demain un objectif et aussi la semaine prochaine. Là, je suis partie en stage en altitude et voilà, là, je suis à J+14, donc je devrais normalement avoir récupéré avant demain. Donc, pour moi, ça reste l'objectif de conserver mon titre demain. Et celui d'aller en chercher un autre la semaine prochaine en France.
Pauline Ferrand-Prévot, double championne du titre quand même, hein, faut le rappeler sur les championnats d'Europe. Et donc, dans quel état de forme tu es à 100%?
Ouais, je pense que je suis bienvenue. Ce stage en altitude m'a fait vraiment du bien. J'ai perdu quelques kilos, j'ai énormément roulé, donc voilà, je me sens bien. En plus, c'est un circuit qui est assez roulant, qui peut me convenir. Donc, avoir les conditions qu'on va avoir demain, s'il pleut ou si ça reste sec. Mais non, je pense que ça va être intéressant parce qu'en plus, on a une belle équipe de France et on a du monde au départ. Donc, je pense que ça va être une course assez passionnante.
Jérôme Coppel.
Oui, moi, j'avais une question pour toi, Pauline. On sait que t'as beaucoup changé ta structure, on va dire, autour de toi, notamment avec Cécile Ravanel. Est-ce que tu sens déjà la différence, les progrès? Est-ce que ça peut te servir là sur ces championnats d'Europe dès demain ou encore plus sur le parcours des jets pour les championnats du monde dans une semaine?
Ouais, je dirais que ça me servira encore plus la semaine prochaine. Là, c'est vrai qu'on a un circuit qui est assez roulant dans l'herbe. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Et voilà, la semaine prochaine, on va retrouver plus un terrain dont on a l'habitude, où il y a plus de racines, plus de sauts, des descentes un peu plus longues. Donc, je dirais que ça me servira plus la semaine prochaine.
Ce circuit des championnats d'Europe, ça, c'est plus ça, un circuit roulant, on va dire routier, je pense. On regarde la course homme, donc un Tom Pidcock, par exemple. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose qui pourrait te convenir, toi qui as été championne du monde de cyclocross.
Ouais, tout à fait. Et une course un peu tactique où il faut se placer, où il faut pas trop prendre devant. C'est vrai que ça peut bien me convenir. Donc voilà, avoir les conditions, parce que si c'est un chantier, si c'est boueux et tout à pied, c'est vrai que ça peut changer du tout au tout. Mais bon, on verra demain.
Pauline Ferrand-Prévot, donc sur RMC, on rappelle hein, que Pauline a une particularité unique d'avoir porté les trois maillots de championne du monde, c'est-à-dire sur route, de cyclo et de VTT. La question, Pauline aussi, c'est est-ce que un retour sur la route est prévu au programme ?
Un retour en soi, non. Donc j'ai signé pour dans une nouvelle équipe, ce sera officiel la semaine prochaine. Donc voilà, mais continuer le VTT et le cyclocross, ça c'est sûr. Peut-être faire quelques piges sur route comme ça, mais faire toute une saison entière, non.
Même dans l'optique de Paris 2024, des JO?
Ouais, des JO, je les ai déjà fait trois fois, je me suis un peu foirée trois fois, donc j'ai vraiment à cœur de réussir cette Paris. Et ouais, je pense toujours me concentrer sur le VTT et après on verra pourquoi pas refaire. Ouais, une saison complète sur route, mais dans un premier temps, c'est pas vraiment ce que je veux.
Sur les jeux, est-ce que déjà tu es déjà dedans, en fait? Est-ce que le site te convient? Alors évidemment, il n'y a pas encore le tracé exact, etc. Mais est-ce que tu te projettes déjà? Est-ce que tu es contente de là où ça va se disputer? C'est sur la colline d'Elancourt, le VTT.
Ouais,
au jeu.
Exactement. Ils n'ont pas encore commencé à tracer. J'ai demandé tout à l'heure au DTN. Mais voilà, dès qu'ils vont commencer, j'espère qu'on pourra avoir des infos en avant-première. C'est l'avantage de
Et
oui, si j'ai signé dans cette nouvelle équipe, c'est aussi pouvoir arriver à 200% pour les Jeux de Paris et de tout mettre en place pour y arriver. Donc forcément, on y pense. Après, voilà, j'ai pas envie de me mettre une pression monstre comme j'ai pu le faire les années passées, mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux progresser. Donc c'est encourageant et motivant, on va dire.
Pauline Ferrand-Prévot sur RMC, au départ donc de la course féminine demain de VTT au championnat d'Europe. Merci Pauline.
Merci à vous.
Et on continue de suivre la course des garçons avec le français Victor Koretsky qui est pour l'instant dans le bon groupe, Valentin Jamin.
Oui, et il a été rejoint par un autre français, Joshua Dubo, et c'est même ce dernier qui a fini par accélérer. On a fait 11 km sur les 34 au programme, et donc Joshua Dubo qui est d'ailleurs champion de France de cyclocross, donc ça appuie ce que disaient Jérôme et Pauline, un parcours qui peut convenir aux spécialistes de cyclocross. Et bien il a accéléré, ça s'est un petit peu regroupé devant. Victor Koretsky est toujours là, les Suisses que je vous citais également, et Tom Pidcock, le favori britannique, a rejoint ce wagon de tête. On est à un tiers de la course.
On continue sur la course, bien sûr, des championnats d'Europe de VTT. Et puis, on va se projeter aussi sur les événements à venir. La belle soirée d'athlée ce soir. Le championnat du monde, le championnat du monde de boxe absolument poids lourd ce week-end. Et puis, le retour de Vincent Moscato à l'antenne d'RMC, qui est quand même l'information principale en sport de ce week-end. À tout de suite. C'est l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Adrien Aigouin.
L'Intégral Sport avec Jérôme Coppel, parce qu'il y a du cyclisme cet après-midi, les championnats d'Europe de VTT en direct, les Français sont devant. Jérôme, on va faire le point avec Valentin Jamin à Munich.
Les Français sont devant, effectivement, 13,6 km de parcouru sur les 35 au programme. Joshua Dubo emmène le groupe de tête. Il y a un autre Français, Victor Koretsky, on pensait plus à lui éventuellement pour une médaille, mais Joshua Dubo se comporte très bien. Tom Pidcock, le favori britannique, est aux avant-postes également. Il y a 5 Suisses dans le lot, un Allemand, Luca Schwarzbauer, et un Danois, Sébastien Carstensen. C'est vrai que pour l'instant, le parcours fait pas beaucoup de dégâts. On l'a dit, on le redit, c'est assez roulant. C'est pas si spectaculaire que ça. Et donc, pour l'instant, on avance groupé du côté des coureurs, des VTTistes.
Tiens, question, Jérôme, Dubo, il joue sa carte personnelle ou il y a une tactique d'équipe, là?
Pour l'instant, il n'y a pas encore de tactique d'équipe. Hein. Il a essayé de s'échapper. Bien sûr, ça faisait le jeu aussi de Koretsky derrière qui n'avait pas à faire l'effort. Mais on a vu que Pidcock, tout de suite, lui, a bouché le trou. Il veut pas se faire piéger. C'est un des gros favoris. Tout le monde va surveiller Tom Pidcock. Je pense que les stratégies côté français, là, on en a deux dans le groupe de tête, vont se mettre en place gentiment. Mais là, on va arriver à la moitié de la course. C'est à partir de maintenant que les hommes forts devraient se dégager et commencer à faire leurs premiers efforts.
Oui, puisqu'on est à peu près à la mi-course, Valentin. C'est
oui,
ça?
C'est ça. On est exactement à peu près à la mi-course, on est à 15
exactement
km.
Exactement, à peu près, ça marche pas.
Oui, non, effectivement, hein. je voulais dire exactement, on est presque à la mi-course, presque à 15 km, il y en a 35, donc on a fait presque la moitié. Je suis assez précis ?
Oui, ça va. Ouais, c'est la mi-course, quoi, en gros.
Exactement.
Et du coup, il faut s'attendre à des attaques, Jérôme, là, c'est ça ? Quand tu dis que les gros bras vont montrer les muscles, là ?
Ouais, bah bien sûr, mais comme l'a dit Pauline juste avant, il faut rester un petit peu caché et abrité sur ce parcours qui est assez roulant. Elle nous a dit que ça ressemblait un peu à un grand cyclocross. On voit que Pidcock, il tient vraiment à garder la tête, à rester devant, et c'est là dans les tours à venir que les favoris vont vraiment mettre en route, et là la différence va se faire. Alors est-ce que ça va être dès ce tour-là ou le tour d'après? Pidcock semble déjà accéléré, donc voilà, c'est vraiment maintenant que la différence va commencer à se faire, une première sélection va se faire, ils vont se retrouver un petit groupe à l'avant. Et ça va être comme ça, des coups de butoir jusqu'à l'arrivée.
Ouais, là, on a l'impression que Pidcock essaye de placer une mine, Valentin.
Oui, Pidcock qui essaye effectivement d'accélérer, parce que là, on était dans une montée avec un gros virage en épingle, pas facile à négocier. Il y a des pavés, il y a des petites buttes de terre, donc on bute un petit peu là-dessus, justement, du côté des coureurs. Et il y a un garçon qui est immédiatement dans la route de Tom Pidcock, et bien, c'est Victor Koretsky qui, pour l'instant, fait un sans faute. Il a pris la bonne roue, il continue d'avancer, il veut aller chercher évidemment une médaille. Lui qui a été médaillé sur les championnats du monde l'an dernier, c'était une médaille de bronze, mais il est en pleine confiance, en tout cas, c'est la sensation qu'il laisse Victor Koretsky et qui continue d'accrocher Tom Pidcock qui essaye de distancer tout le monde.
On reste très attentif et bien sûr, on revient très régulièrement. Valentin, pour les championnats d'Europe de VTT, la course masculine en cours à mi-course, donc les Français toujours dans le bon coup. Si vous nous rejoignez, alors dans la soirée, il y a également un très beau programme avec les championnats d'Europe d'athlétisme et on va retourner à Munich faire le point avec Aurélien Tiercin. Rebonjour Aurélien.
Rebonjour à tous.
Le moment fort, ça sera 22h pour la finale du 400 haies.
Oui, avec trois Français et des bonnes chances évidemment de voir du bleu-blanc-rouge sur le podium demain. Il y aura Victor Koroller qui lui est entré en série, qui est peut-être le moins médaillable des trois Français. Ludwig Vaillant qui revient bien, qui fait un bel été. Et puis surtout Wilfried Apio qui a terminé quatrième des mondiaux de Eugene aux États-Unis il y a trois semaines. Il avait échoué à 2 petits centièmes du podium et à 4 centièmes du mythique record de France de Stéphane Diagana sur 400 mètres haies. Il y aura donc un duel, on l'espère en tout cas, entre Apio et le monstre Carsten Warholm, recordman du monde, double champion du monde, champion d'Europe. Mais le Norvégien qui était blessé à Eugene, qui avait déçu, qui n'avait pas les cannes pour les 200 derniers mètres, avait terminé 7e de la finale aux États-Unis. Donc si Apio est dans une grande forme et que Warholm n'est pas encore tout à fait remis de cette blessure, on pourra avoir une belle médaille d'or. Et puis en plus, on attend des trombes d'eau vers 22-23 heures. Ça pourrait aussi perturber la course puisque les haies, c'est toujours compliqué.
Et puis alors, il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer. Il y a le deuxième tour du 800 mètres pour les messieurs. Et puis pas mal d'autres belles courses au programme. Hein.
Oui. Et alors, il y a donc les demi-finales du 800 mètres avec Benjamin Robert et Gabriel Tual qui devront passer le tour. Gabriel Tual qui est un habitué, hein, qui est finaliste à Tokyo, 7e aux Jeux Olympiques l'année dernière, 6e des mondiaux de Eugene cette année. Mais maintenant, il veut monter sur la boîte absolument. Benjamin Robert, lui, est encore plus rapide. Il a un record en 1:43.75. C'est l'Européen le plus rapide de la saison. Mais il a peut-être un peu plus de mal à passer les tours dans les grands championnats. Donc là, il va falloir enfin convaincre. On aura la finale du 3000 mètres steeple qui est la référence française depuis, rendez-vous compte, ce sont les Français qui remportent les championnats d'Europe aux 3000 steeple depuis 2010. Il y a eu Mayedine Mekissi et Johan Koval. Bon, c'était un peu particulier à Zurich en 2014 puisque Koval avait récupéré le titre de Mekissi qui avait, rappelez-vous, enlevé son maillot d'athlée avant de franchir la ligne comme un joueur de foot qui a marqué un but, sauf qu'en athlée, bah, ça se fait pas et on lui avait retiré son titre. Là, on a Djilali Bedrani. Mehdi Belhadj malheureusement est éliminé en série, donc on a Djilali Bedrani et Louis Gilavert. Donc de bonnes chances notamment pour Bedrani qui avait terminé notamment cinquième des championnats du monde 2019 à Doha. Donc chance de médaille également. Et puis pour terminer à 22h22, il y aura la finale du 200 mètres féminin avec la Française Shana Grebo. Bon, là, on pourrait dire qu'une médaille, ce serait vraiment une excellente surprise. On n'attend pas a priori la Française dans les trois premières.
Donc encore une grande soirée d'athlée au championnat d'Europe. Merci Aurélien. On va refaire le point sur la course de VTT. Tu suis les championnats d'Europe d'athlée, Jérôme?
Ouais, un petit peu, mais beaucoup moins que le vélo quand même.
C'est sûr. Le VTT, championnat d'Europe, la course masculine en cours, et ça commence à accélérer, Valentin Germain.
Oui, et comme je vous le disais, un seul garçon pour l'instant est en capacité de suivre le champion olympique, Tom Pidcock, le Britannique qui a accéléré. C'est Victor Koretsky qui ne lâche pas sa roue. Il y a un Suisse juste derrière, Thomas Lischer, mais il y a un trou vraiment là qui s'est formé de 6-7 secondes avec les autres concurrents. Et donc pour l'instant, trois garçons qui se sont détachés, Tom Pidcock, le Britannique, Victor Koretsky et Tom Lischer, alors qu'on est à la mi-course actuellement et qu'on est en pleine descente vers la ligne d'arrivée, puisqu'on rappelle qu'il y a 8 tours à parcourir dans le parc olympique de Munich. Donc Tom Pidcock emmène dans sa roue pour l'instant le Français Victor Koretsky.
C'est très bonne nouvelle pour Koretsky, hein. Ça veut dire qu'il a des cannes aujourd'hui pour suivre Pidcock comme ça, Jérôme, hein.
Ouais, bien sûr, il a des cannes, hein. Valentin l'a dit, il jongle comme Tom Pidcock avec la route. La semaine dernière, il était à l'Arctic Race en Norvège, il a pris la 10e place de la dernière étape dimanche dernier, donc il est très en forme, hein. Sur la route, il doit trouver un petit peu ses marques, mais on sait que la route, ça permet de gagner beaucoup en puissance pour le VTT. Pour l'instant, on a deux coureurs, Pidcock et Koretsky, qui jonglent entre la route et le VTT aux avant-postes.
Quand on regarde les attitudes, là, on a l'impression qu'il y a eu un début de course, bon, je ne vais pas dire tranquille, mais au train. Et c'est comme si là, ils étaient au sprint, le groupe de devant. Là. C'est possible d'être à ce rythme-là jusqu'à la fin de course?
Alors à ce rythme-là, encore 3 tours, non. Mais par contre, il y aura toujours des accélérations comme ça. Un Pidcock, il a pas envie d'arriver avec Koretsky, par exemple, qui est assez rapide. Donc il va essayer.
Il veut lui faire mal, c'est ça.
Voilà, il veut lui faire mal, exactement. Il veut essayer de le mettre un peu dans les cordes, de lui faire payer les efforts qu'il est en train de faire plus tard. On sait que Pidcock sort du Tour de France, donc la longueur, on sait que la course va durer entre 1h15 et 1h30 à peu près. Ça pose pas de problème pour Pidcock. Il essaye de les fatiguer en accélérant comme ça et en essayant de les lâcher dans les tours suivants. Mais il peut pas faire 3 tours à cette allure-là, bien sûr.
Et tu sens Victor touché là par ce rythme ou tu le sens bien là de ce que tu vois, Jérôme?
Non, pour l'instant, il a l'air bien, mais vous savez, en VTT, des fois, comme on dit dans le vélo, ça vous attrape par les pattes de derrière, vous faites une ou deux accélérations comme ça, et boum, dans la bosse d'après, si Pidcock arrive encore à insister un peu comme ça, ça pourrait coûter cher à Koretsky, mais pour l'instant, il a l'air vraiment très bien, on a vraiment les trois plus forts pour l'instant aux avant-postes.
Ouais, messieurs, un mot important, juste, il se met à pleuvoir, à Munich, c'est-à-dire que, bien, le terrain va devenir glissant, j'ai vu des grosses descentes dans l'herbe avec virage, attention à ne pas glisser, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait jouer pour pas sur la deuxième partie de course.
Et clairement, derrière, ça souffre. Derrière le groupe de 3, ça a l'air dur en tout cas.
Il y a un trou de 15 secondes qui s'est créé entre le groupe de 3 et ceux qui sont derrière. On rappelle les 3 devant: Tom Pidcock, le champion olympique, le Français Victor Koretsky et Filippo Colombo. C'est lui, le Suisse, qui a réussi à accrocher le wagon. Effectivement, Jérôme le disait, c'est les 3 plus forts sur le papier, ceux qu'on annonçait comme potentiels médaillables. Alors que Tom Pidcock a fait un petit trou là quand même. Il a pris une dizaine de mètres, 2-3 secondes sur Filippo Colombo et Victor Koretsky. Allez, il faut s'accrocher. On est dans les sous-bois. 5 tours sur 8 ont été effectués, un peu plus de la moitié du parcours sous la pluie maintenant à Munich.
Et l'arrivée sera jugée aux alentours de 18h05 à peu près, hein, c'est une estimation. Donc il reste encore pas mal de temps, mais le Français pour l'instant, Victor Koretsky, plutôt bien parti pour un podium. Pour le titre, ça va être dur de battre Pidcock. Alors l'athlée, bien sûr, ça sera l'autre grand moment. Et puis ce week-end, il y a un très grand événement sportif, c'est la boxe. C'est un championnat du monde poids lourd. Et c'est la revanche entre Anthony Joshua et l'Ukrainien Usyk. C'est le deuxième, c'est le numéro 2. On va en dire un mot avec Alex Herbinet. Salut Alex.
Salut messieurs. Salut Alex.
C'est samedi soir, c'est en Arabie Saoudite.
Exactement.
Et c'est presque un an finalement après la défaite de Joshua. Défaite qui était un peu surprise à l'époque, même si tout le monde a convenu que Usyk était plus fort. Hein.
C'était le 25 septembre dernier et en effet, il y avait des doutes sur les capacités d'Alexander Usyk, qui est l'ancien champion à 4 ceintures unifiées des lourds légers, la catégorie d'en dessous. Il y avait un doute sur ses capacités à reproduire ses performances chez les lourds. Et puis, il y a 11 mois, il a laissé aucune place au doute puisqu'il a même failli mettre Joshua KO dans les dernières secondes de combat.
C'était alors ce numéro 2, il était prévu dans le contrat. C'est-à-dire que Joshua l'avait anticipé peut-être.
Exactement. C'était en partie d'ailleurs ce qui avait retardé ce premier combat parce que Joshua avait demandé absolument à ce qu'il y ait une clause de revanche. Je pense qu'il sentait un peu le coup venir quand même avec Usyk, qui n'est pas le dernier des boxeurs. Et donc la revanche se fait 11 mois plus tard, bien sûr parce que Alexander Usyk est ukrainien et que pendant quelques mois il a été occupé par le conflit dans son pays, donc c'est pour ça que ça ne s'est pas fait plus tôt et qu'on a dû attendre cette fin.
Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça ressemble à une dernière chance pour Joshua? Est-ce qu'une défaite serait rédhibitoire pour sa carrière?
Alors, il a 32 ans. Il y en a certains en Angleterre. Johnny Nelson, qui est un consultant pour Sky Sports, a fait une chronique où il disait que si Joshua perdait, il pensait qu'il irait à la retraite, carrément. Joshua lui a répondu en disant, mais vous êtes fous de penser ça. J'ai encore des choses à faire dans la boxe, même si je perds. Il a 32 ans. Perdre trois fois, ce serait sa troisième défaite chez les pros. Il reculerait beaucoup dans les classements. Mais c'est tellement une superstar, Anthony Joshua. Il peut remplir Wembley que la carrière serait pas finie.
Est-ce qu'il est redevenu méchant? Est-ce qu'il a tout fait pour redevenir méchant? Parce qu'on en a parlé dans le Moscato Show il y a un an. Et Joshua avait dit, il va falloir que je me remette dans des conditions pour retrouver mon agressivité et la méchanceté.
T'as tout dit sur ce qui prétend qu'il va se passer samedi soir. Il a notamment changé de coach. Exit Rob McCracken, qui était son coach depuis les Jeux Olympiques de Londres, qu'il avait mené à l'Or Olympique puis chez les pros. Et il a pris Robert Garcia, qui est un Américain qui a mené 14 boxeurs à des championnats du monde, dont son petit frère Mickey Garcia, et qui est réputé pour être un entraîneur qui fait des boxeurs agressifs, des boxeurs qui vont chercher la bagarre. Et Joshua l'a dit, j'ai fait une énorme erreur dans le premier, j'ai essayé de boxer avec un meilleur boxeur que moi. Donc là, je veux lui casser la gueule. Le but, c'est de le mettre KO. Par contre, quand on essaye d'aller mettre KO Usyk, un boxeur aussi bon qu'Usyk, le risque, c'est de se faire contrer.
Ce sera donc samedi soir, Alex. C'est en Arabie Saoudite. Et au programme de cette grande réunion, un combat très important, c'est Mathieu Boderlic face à Callum Smith. C'est une demi-finale mondiale des 1000 lourds. Donc ça peut lui offrir une chance mondiale, même s'il n'est pas le favori de ce combat. Jérôme Coppel, on est en train de suivre le championnat d'Europe de VTT. Quel est le sport le plus dur pour toi, la boxe ou le vélo?
Oh, la boxe, je pense. La boxe, c'est pas vraiment.
C'est sûr, hein.
C'est sûr.
On va demander à Vincent Moscato son avis, ça peut
me fâcher. Non, la boxe, c'est vraiment. Alors, autant j'aime regarder ça, autant j'aimerais pas en faire, me faire taper dessus, ça va en boîte de nuit, mais pas sur un ring.
C'est quoi ton avis, Vincent, sur la question?
Ah, bah justement! Vincent Moscato!
Mais dis donc, t'es bien loin, là, t'es loin de nous, là.
Tu es où?
Je suis bien loin de vous, mais j'arrive. Ne vous inquiétez de rien, lundi à 15h.
La boxe contre le vélo, c'était un des premiers débats du Moscato Show il y a 15 ans. Hein.
Avec le pauvre Guy Kédia qui a rejoint Coluche maintenant depuis longtemps.
Bien sûr, tu rates rien des championnats d'Europe de VTT et tout ça, toi.
Par contre, je m'en sers complètement. Par contre, la nouvelle, quand même, pour redevenir méchant. Joshua, il a pris José Garcia comme entraîneur. Je sais pas si ça va marcher, quand même. Faut vivre avec un Doberman, dormir avec son bulldog. J'ai du mal à y croire. Mais enfin, on va regarder ça. On va regarder ça avec impatience. Ce qu'on est content pour lui, c'est qu'il fait au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ouais, donc il va prendre de l'oseille. On est content pour lui. ça sera déjà fait. Bon, comment vous allez?
Mais très bien.
Les enfants.
On t'attend. Lundi 15h, Vincent. Tu seras là. Hein.
Ouais, lundi 15h, bien sûr. Lundi 15h, le Super Moscato Show. Bon, vous le savez, hein, on va reprendre plein baden. Ouais, écoute, j'ai étudié sport tout l'été. Ouais. J'ai bossé sur mon vélo, j'ai regardé le tour en entier, là où je suis neuf, j'ai regardé ce qui se passait au PSG, impeccable, on est champion d'Europe.
Voilà. Voilà. Deuxième journée de championnat, penalty gate.
Le PSG 6 premier, écoute, le pauvre pompe de Brestois.
Brendan Chardonnay.
Ouais, lui, ça joue à descendre. J'ai eu acheté une boule. Je sais tout. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous pouvez.
On débrief le combat de Joshua lundi dans le Super Moscato Show, Vincent.
Ça va être bien, quand même. À quelle heure c'est? Dites-moi quelle heure c'est, parce que j'ai pas tout suivi. À quelle heure c'est, Joshua?
Alors, on a un avantage, c'est que par rapport à Las Vegas d'habitude, l'Arabie Saoudite, le décalage horaire, il est inversé, donc on sera plutôt sur le début de soirée. Je sais pas exactement l'heure du main event et du combat.
Tu veux rester pour le Kikadi, Vincent, ou on te laisse?
Ah, j'ai presque envie, quoi. J'ai presque envie de rester pour qui que
Non, moi, je pense qu'on va pas t'humilier avant même la rentrée, on va te laisser.
Garde les forces, lundi.
Alors, par contre, toi aussi, j'ai bossé. Ça va être
un surprise. Ah, bah, c'est bien.
Et Vincent, lundi, tu nous racontes la dangerosité de ton escalier, hein, parce que c'est un escalier en colimaçon et on en tombe facilement.
Tu t'occupes de tes affaires et tu poses pas des questions qui. Je suis mieux, monsieur, maintenant.
À lundi, Vincent. Pour le Super Moscato Show à 15h. Merci, Alex. Le point rapide sur la course, le VTT, le championnat d'Europe, Valentin Jamin.
Le Britannique Tom Pidcock qui semble un peu s'envoler. Il a pris 15 secondes d'avance sur le duo Victor Koretsky, le Français, et le Suisse Filippo Colombo, qui eux-mêmes voient revenir un groupe de 5 ou 6 coureurs derrière. Il n'y a plus le Français Joshua Dubot, mais la médaille pas assurée du coup pour Victor Koretsky. Tom Pidcock en tête. Il reste 10 km à parcourir.
Allez, à tout de suite pour le Kikadi sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Avec Jérôme Coppel qui va donc disputer le premier Kikadi de sa carrière. T'es ému, Jérôme?
Ah oh oui, très très ému, stressé, attention. Bah, j'imagine j'en ai bien. Regardé sur YouTube tout à l'heure pour voir un peu.
Ah oui, ça devait être intelligent. Non, mais...
Et donc, nous accueillons Jean-Louis Tour pour ce dernier Kikadi de la semaine. On va faire le point tout de même sur les championnats d'Europe de VTT avant de démarrer le Kikadi. Valentin Jamin.
Tom Pidcock, toujours en tête, 24 secondes d'avance sur un groupe maintenant de 11 coureurs. Il y a eu regroupement parmi ces 11, le français Victor Koreski et un autre français, Joshua Dubois. Ils sont à 24 secondes de Tom Pidcock, mais avantage aux Suisses puisqu'ils sont 6 sur les 11 à poursuivre le britannique Tom Pidcock.
Le Kikadi, c'est parti.
RMC, le Kikadi Summer Edition.
Jérôme Bakary et Jonathan s'affrontent pour un maillot de l'équipe de France de basket et des places de match. Jérôme, tu choisis en premier. Alors, soit Jérôme Coppel, qui est novice, soit Jean-Louis Tour, soit moi. Sache que Jean-Louis et moi, nous sommes à égalité avec 11 bonnes réponses depuis le début de la semaine.
Mais j'en ai gagné 2 dans la semaine.
Oui, à l'expérience, je vais prendre Pierrot.
Bravo. Ah, à l'expérience. Bakary, à toi de choisir.
Ouais, moi, je choisis Jean-Louis.
Jean-Louis. Voilà. Et donc, Jérôme, tu seras avec Jonathan. C'est parti, voilà. Messieurs.
Voilà. Bon courage, Jonathan. Et désolé.
Merci. C'est pas grave.
Vous en rêviez. Eh bien, il est de retour, lui aussi. Ouais. Avant la reprise du Super Moscato Show, notre producteur, Frédéric Pouillet.
Je ne plus à vous.
Mais avant tout, il est auteur.
C'est ma première.
Et avant tout, il nous vend du rêve avec ses charades. C'est donc la charade du vendredi.
Prénom et nom. Quand on prend 4 noix et qu'on en perd 2, on obtient mon premier.
Ouais.
Mon deuxième est un célèbre hôtel de la rue du Faubourg Saint-Honoré.
Notre style.
Mon troisième est un fleuve d'Asie traversant la Mésopotamie. Et mon tout est le deuxième charbonjois. Oui. Et mon tout est le deuxième charbonjois le plus connu après moi.
Eh bien, bien joué.
Pour toi, Jérôme. Quand on prend 4 noix et qu'on en perd 2, il reste 2 noix. L'hôtel, c'est l'hôtel Coste.
On l'avait tout ça, on avait tout ça.
Et c'est le Frat.
Bien tenté, Benoît Costil. Hein.
C'était parfait, Benoît Costil.
2 noix, Coste.
Allez, je pense juste. Tactiquement, t'as fait une erreur. Je pense qu'il sait pas absolument pas qui est Benoît Costil.
Ah bon
Qui serait qui est Benoît Costil
Froid. Charbonjois.
Ah, qui est Benoît Costil, Fred?
D'où?
De Charbon.
Très bien. Donc le premier point pour l'équipe Pierre, Dorian, Jérôme.
Il est gardien de but.
Il est attaquant.
Il tombe Benoît toujours Costil, à côté.
D'accord.
Trop bon. Merci Fred. Voilà, ça n'a rien à changer.
Charade,
on repart de plus belle. Casemiro. On peut lancer du foot et voilà, vous essayez de trouver la bonne réponse. Casemiro va s'engager avec Manchester United. C'est même officiel, me semble-t-il.
Ouais.
Saison 2014-2015. Il a joué dans quel club?
Ah là, je sais pas Porto. Du tout où il était avant.
FC Porto.
Prêté un an.
Non, mais il est là, Jean-Luc Tour, là. Tu connais le foot, toi? Tu devrais présenter une mission de foot.
Jérôme, tu savais pas que Casemiro allait jouer à Porto. Donc, un point pour l'équipe d'Orion, Jérôme, et un point pour l'équipe Tour Bakary.
Qui qu'a dit? Vous savez, moi, des Coupes du Monde, j'en ai gagné. Sans prétention, ce n'est plus ce que je veux.
Ah, Pinturo,
non,
ça peut être.
Elle a gagné plein de Coupes du Monde.
Ferrand-Prévot,
bien sûr. Elle était avec nous il y a quelques minutes. Bah Pauline
oui.
Ferrand-Prévot.
Bah oui, bah donc oui. Très bien.
C'est évident.
Bah oui. Ouais, faites des gens que vous avez fait dans l'émission.
C'est quand même qui est Pauline Ferrand-Prévot.
Bah normalement, t'es censé écouter l'antenne.
Non, mais il n'y a pas de problème. On part
sur BFM TV.
Vous faites des gens que vous avez fait en interview une heure avant. On est sur un film d'égalité.
BFM TV, c'est hors
sport. Après, combien vous avez?
Alors. Moi, j'adore The Voice Kid.
Ouais.
Donc, cette année, dans les coachs de The Voice Kid, il y a Julien Doré, Louane, Patrick Fiori, et qui est le quatrième?
Soprano, Kenji.
Kenji, bien sûr, mais t'es là sur The Voice Kid. Kenji, bien sûr, il est là.
Il y a un Jennifer qui est parti du côté de
Jérôme. Il y a Jennifer qui
était bien tenté.
Bien joué.
Jennifer est noté quand même.
2 points pour l'équipe d'Orient Jérôme, 2 points pour l'équipe Tour Bakary, 0 pour l'équipe Coppel Jonathan.
BFM TV, parce que vous en voulez de la BFM TV. On y va. Qui qu'a dit? Encore un peu trop tôt.
Jennifer.
Bien joué, Jean-Louis Tour. C'est encore un peu trop tôt pour en parler, mais je pense qu'il y aura évidemment des retrouvailles avec l'émission Star Academy. Ça, je sais, Pierrot.
Ça, c'était noté.
C'est très intéressant.
Que tu attends ces informations avec impatience.
Ça, c'était noté en tête de BFM. Ouais.
Elle a sorti un single, Jennifer Pierrot, qui s'appelle.
On va l'écouter.
Sauve qui aime. C'est un joli titre.
Alors, ça va être bien, Jérôme, non?
C'est une chanson festive, Pierrot.
Tu étais fan de Jennifer, Jérôme?
Bah ouais, mais j'avais un coup d'avance.
C'est le problème.
Une minute dans ce
qui est dit. Tour Bakary qui prend la tête.
Question auditeur. Là, Jérôme, t'as pas le droit de répondre, hein. Sinon, c'est pour l'adversaire, aux deux adversaires. Question auditeur. Sur la Vuelta, parce que ça y est, c'est la Vuelta. Quelle est la couleur du maillot du leader au classement général?
Rouge.
Qui a dit rouge?
Bakary.
Bien joué.
Il est là, Bakary.
Quelle balade.
Non. Ah, Bakary en premier.
C'est Bakary en premier.
Bah oui, oui. Ah là là, il faut demander à Fred Pouillet.
C'est Bakary, nous dit Fred.
Moi, je suis sûr connaître sa voix. Donc.
Alors là, je vous annonce que Fred n'a aucune idée.
C'est juste la possibilité
de Bakary.
Justement, la Vuelta, rappelez-moi.
Roglic.
Rappelez-moi en quelle année 95. L'Espagnol Miguel Indurain a gagné la Vuelta.
91. Jamais.
Jamais. Il n'a jamais gagné la Vuelta. Le Tour d'Espagne, lui, l'Espagnol. Bravo Pierre Dorian.
Culture on du dit. Sport.
Pierre, on réactivité là.
Ouais, je l'avais en plus.
Le chrono est à zéro. À 15 secondes, on me dit il faut arrêter. Voilà, c'est Frédéric Pouillet, j'applique la consigne du producteur. On arrête ce kick-off.
Moi, je veux bien laisser 15 secondes de l'émission d'après.
C'est gagné pour Bakary. Bakary, tu gagnes ton maillot de l'équipe de France de basket et tes places de match pour France, République tchèque, mercredi prochain à la Grand Hôtel Arena de Paris. Il est content, Bakary. Jean-Louis, le programme.
Oui, gros programme. Il y a la troisième journée de Ligue 1 qui débute ce soir.
On aura pu commencer par le championnat d'Europe de VTT.
Oui, il y aura la fin du championnat d'Europe de VTT, bien sûr. Avec la victoire de Pidoc.
Pitcock.
C'était pas loin. Vidoc. Le Paloc. Bon, il y aura l'arrivée évidemment dans Rodin sans flamme. Avec donc la troisième journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Il y aura donc le multiplex avec nos correspondants pour présenter les points chauds. En plus de ça, on va accuser Nice, accusé de ne pas avoir le niveau européen avec ce qui s'est passé hier. Et puis Neymar Mbappé, est-ce que la situation est réglée? Il n'y a pas de malaise, c'est Galtier qui le dit. Ou est-ce qu'il nous prend un peu pour des jambons?
Jérôme.
Pardon. Alors Jérôme Rotten sera là avec Lionel Charbonnier parce que forcément la dernière de la version estivale, Jérôme Rotten ne pouvait pas la rater.
Jérôme Coppel, est-ce que tu es content de ton premier Kikadi?
Ah bah très très content, 0 points, c'est pas mal pour une première, je peux que m'améliorer.
On va se mettre en retard de 30 secondes pour refaire le point sur le championnat d'Europe de VTT, Valentin Jamin.
Encore 10 km à parcourir, même scénario, Tom Pidcock, le Britannique, est devant, une trentaine de secondes d'avance sur un groupe avec 6 Suisses qui entourent le Français Victor Koreski, qui est d'ailleurs bien un petit peu décroché par certains puisqu'ils font un petit peu stratégie d'équipe pour aller chercher l'argent et le bronze. L'or devrait revenir au champion olympique Tom Pidcock, encore 10 km.
Merci Valentin, la suite et la fin tout de suite sur RMC dans Rotten sans flamme. C'est terminé pour l'intégral sport. On remercie beaucoup Jérôme Coppel d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Et donc lundi 15h, on retrouve l'équipe au grand complet. Vincent Moscato revient sur RMC à 15h lundi.
RMC intégral sport.